Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
Bonjour tout le monde, Carl Fleury de la microbrasserie du Saguenay, plus communément appelée la Voie Maltée, parce que nous, vraiment notre structure, notre commercialisation, mais aussi toute notre brand, c'est la Voie Maltée. Une entreprise à Saguenay, originaire de Saguenay, toujours nos opérations principalement à Saguenay. On a commencé en 2002 avec un beau pub à Jonquière, qui est encore opérationnel aujourd'hui, qui fête d'ailleurs ses 20 ans. Ensuite de ça, on a ouvert à Chicoutimi, un deuxième restaurant beau pub. Ensuite de ça, Québec, Pierre-Bertrand. Puis ensuite, on a ouvert la microbrasserie en 2014, le plan de brassage. Puis officiellement, les premières canettes ont sorti en 2015. Fait que depuis 2015, après ça, on a fait quelques investissements pour améliorer notre capacité de production, mais principalement aussi la qualité des produits, parce que ça a toujours été la priorité chez nous, la qualité de produits. Je pense que c'est un fait, tu sais, c'est une chose qu'on tient beaucoup à cœur. Puis chaque action qu'on pose, c'est toujours en fonction d'avoir la meilleure qualité possible. Fait qu'on a changé une encaneuse, on a rajouté une centrifugeuse, on a un laboratoire sur place. Là, cette année, au printemps, on a investi dans un tunnel pasteurisateur qui est...
En plus?
Ouais, on a un tunnel pasteurisateur. Fait que je vous dirais qu'à part des grandes, grandes brasseries, je pense pas beaucoup qu'il y en a, là, en termes de micro, là, ici à l'MBQ. On sait qu'il y en a certains qui sont en train de faire des achats. Il y en a qui ont des flash pasto. Nous, on considérait que le flash pasto, ça, il demandait, tu sais, il restait encore une part de risque pour faire du sans-alcool ou du seltzer, des choses de même. Fait que c'était vraiment le pasteurisateur, le tunnel pasteurisateur qui était la meilleure chose, mais c'est quand même un investissement de près de 2 millions pour acquérir l'équipement. Mais en même temps, on considère que c'est le prix à payer pour des valeurs qui sont la qualité, puis s'assurer de faire les bonnes choses de la bonne façon. Puis comme on est rendu un volume à près de 15 000 hectolitres.
C'est beaucoup fait, quand même.
Oui, c'est beaucoup. Puis en même temps, ben, on voit aussi que le marché sans alcool se développe. Fait que si on veut éventuellement peut-être avoir un produit star qui robuste sur les tablettes parce qu'on n'a pas d'alcool pour maintenir la qualité du produit comme une bière standard, c'est important de s'assurer que, parce que chaque petit défaut va être exposé ou va être multiplié par le fait qu'il n'y a pas d'alcool, qu'on est moins dans des grosses bières lourdes avec beaucoup d'alpillé. Fait que tu sais, on peut pas cacher beaucoup les défauts. Les masques tombent rapidement si on n'a pas un produit de qualité. Fait que dans l'optique où si un jour on dit ben on veut aller vers les marchés extérieurs, soit canadiens ou américains, on pense qu'il fallait que ça nous prenne ce type d'équipement-là. Mais en même temps, on veut développer d'autres lignes de produits. Actuellement, on travaille sur un produit pour de l'exportation en Asie. Fait que tu sais, on a quand même une vision de pas juste de brasserie, parce que tu sais, à travers notre réflexion de là, quelques années, on s'est dit les équipements de brassage sont pratiquement équivalents pour faire différents produits. Comment est-ce que je peux rentabiliser mes équipements pendant que ma bière fermente? Comment est-ce que je peux faire pour être capable de faire d'autres produits, d'autres lignes de produits qui sont parallèles, mais en même temps qu'ils vont utiliser mon encaneuse, vont utiliser mon tunnel pasteurisateur, vont faire travailler mon équipe? Fait que c'est un peu là-dessus. Ça devient mener une recherche financière aussi pour s'assurer de payer notre loyer, de payer toutes nos obligations. Mais tout en gardant l'optique, il faut que ça soit complémentaire à ce qu'on fait déjà, puis que ça ne nuit pas à notre processus de bière. Fait que, tu sais, on ne veut pas faire d'autres choses au détriment de la bière, mais on veut faire d'autres choses en plus de la bière. Fait que, il faut que ça soit une addition et non pas une substitution dans notre vision. Fait que c'est un peu de même qu'on a orienté nos bières sans alcool, nos seltzers, puis en même temps, tu sais, les seltzers, ben, fallait réussir. Il y a quand même des défis technologiques. Tu sais, notre bière sans alcool, tantôt, on venait en parler d'une conférence, mais plus général, ça a pris 2 ans avant d'aboutir à ce qu'on a. Parce que, tu sais, moi, je disais souvent, c'est le secret de la caramille. Comment est-ce qu'on fait pour le craquer? Puis là, maintenant, on se pose des questions. On envoie nos brasseurs à table à dessin. Ils font des tests. On échoue, on recommence. Puis, fait que, tu sais, c'était un long processus, mais en même temps, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Puis ça nous a amené à développer les 4 produits qu'on a sans alcool, puis dont lesquels on est très fiers. Puis à travers tout ça, ben, après ça, on dit, ben, on lance des seltzers. T'sais, notre premier domino, c'est la création de l'alcool de malt. Inodore, incolore, ainsi de suite, parce qu'on ne veut pas avoir le goût de malt dans un autre produit fruité. Fait que t'sais, ça, c'est le premier élément déclencheur. Mais après ça, ça devient un peu Des fois, moi, je disais à la blague dans mon équipe, c'est on transforme l'eau en vin. Parce qu'on multiplie. Tu prends un concentré, tu redivises. Fait que tu prends un concentré, tu le redivises en deux. Fait que tu passes d'un 200 hecto d'alcool de malt peut-être à 16 %. Puis tu en fais 800 hecto à 4 %. Fait que ça nous permettait d'augmenter notre capacité de production en fonction de ce qu'on était capable de créer avec un concentré d'alcool de malt. Puis ensuite de ça, de le réduire pour être capable d'arriver à ce qu'on voulait comme produit. Fait que ça devient doublement puis triplement intéressant de dire, hey, là, ça devient un défi aussi de le faire, mais ça devient aussi, le profit est là dans le sens que le gain est appréciable quand on réussit à percer ça, même si on a des quantités moindres. Si on a des coûts de production peut-être un petit peu plus élevés parce qu'on est dans des formats de canettes en imprimé, je vais dire just in time et non pas du. J'achète une 53 pieds de canette puis je load ça dans mes entrepôts. Ben, même si certains éléments dans le coût de fabrication est plus élevé, ça permet d'avoir un produit quand même compétitif parce qu'à la base, on est capable de trouver une façon de faire un produit quand même intéressant pour ça. Fait que c'est un peu notre vision. Puis là, à travers ça, ben, on a le volet aussi restauration, où ce que l'on fait de l'intégration de produits verticale, si on pourrait dire, parce que, tu sais, dans notre modèle, c'est un peu ça qu'on souhaite faire. Puis quand on s'inspire de d'autres secteurs, si on regarde les pétrolières, ils l'extraient, ils le raffinent, ils le distribuent, ils le vendent au détail. Fait qu'à chaque étape, ils font quand même, même s'ils font juste 10 %, s'ils ont 4-5 étapes, ben ça finit par se multiplier. Fait que là, on s'est dit, comment est-ce que nous, on peut faire à travers notre système à nous? On produit, on le vend au détail, on produit, on le vend à nos consommateurs dans nos restaurants. Puis ensuite de ça, bien, c'est venu à travers ça des opportunités. Fait que, tu sais, quand on place en tête la qualité, bien, ça arrive que souvent, il y a des gens qui cognent notre porte et disent « Nous, on serait peut-être intéressés de faire chier. » On a souvent des demandes de faire du co-packing pour d'autres. Actuellement, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup, sauf si on a un intérêt autre que juste faire le produit, ce qui est arrivé avec Cils Joli Rouge. C'est à l'automne, l'année passée, on a commencé des pourparlers avec la Cils Joli Rouge. Puis ça finit qu'aujourd'hui, le produit est chez nous.
C'est vous qui le faites?
Oui. Maintenant, c'est rendu nous qui fabriquons le produit. Mais eux restent propriétaires de leur marque. On a rentré actionnaire dans leur entreprise. Fait qu'eux, en même temps, ils ont une garantie de qualité parce qu'ils disent, ben, tu es actionnaire chez nous.
Tu ne feras pas de... accès à la technologie.
Peut-être que tu ne nous feras pas de la scrap. Fait que lui, c'est sa garantie, son ISO de dire, ben moi, mon fabricant, c'est sûr qu'il va me faire un bon produit, parce que de toute façon, il est actionnaire chez nous aussi. Fait que là, ça devenait intéressant pour nous de le rentrer dans notre réseau, parce qu'on avait un réseau de distribution, dans nos restaurants, parce que ça lui donne une vitrine. Fait que tu sais, c'était du win-win pour tout le monde, parce que lui, il était dans un endroit où il devait déménager, puis il devait réinvestir dans une brasserie. Fait que tu dis, lui, son... T'sais, ça, il se dit, bon, est-ce que j'investis 2 millions d'une brasserie? Ou je me trouve un partenaire qui a déjà tous les équipements que ça prend pour faire des bons produits, avec de la pasteurisation et tout. Puis je fais comme, ils restent propriétaires de leur marque, ils restent libres de développer leur marque comme qu'ils veulent, mais avec l'appui d'une expertise, d'un équipement, tout ça, sans avoir de soucis de... Je vais sans avoir être capable. Mais, fait que, ça devenait intéressant pour les deux. Nous, ça devenait complémentaire dans notre portefeuille parce qu'on n'avait pas. On sait que c'est une autre clientèle. On sait qu'aux États-Unis, c'est en grosse progression aussi les cidreries, même qu'il y a des brewpubs, l'équivalent de cid. Là,
ouais,
il y a juste du cid. Fait que, est-ce qu'on se dit qu'avec ce type de produit-là, on est comme 20 ans? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la bière qui est là 20 ans puis le cid aujourd'hui? Peut-être, le temps va nous le dire, mais on voulait rapidement se positionner dans ce secteur-là pour être capable justement d'avoir un produit puis d'avoir quelque chose de complémentaire à notre bière. Parce que depuis hier, on est au congrès de la MBQ puis on voit les chiffres, ça stagne la bière. Il y a autant de joueurs. C'est un marché qui est soit stagnant ou en diminution. Mais souvent, les augmentations sont générées par des nouvelles catégories de produits, que ce soit des seltzers, que ce soit des prêts à boire, que ce soit du sans-alcool. Mais en même temps, toutes les fois qu'il arrive une nouvelle catégorie, il y a de la place pour les premiers joueurs, mais si tu es le 25, 30e, 50e dans la ligne, ça se peut qu'il m'a amené le détaillant fasse garde, moi j'ai plus de place.
Mais c'est ça que c'était avec les Seltzers. Il y a beaucoup de monde qui sont arrivés un peu en retard quand ça faisait deux ans qu'on leur dit d'aller là-dedans. Tu sais.
Ouais, puis les Seltzers, ce qui arrive, c'est qu'on s'est ramassé dans un phénomène exactement comme il y a 20 ans avec les microbrasseries. C'est que les grandes brasseries ont acheté toutes les tablettes. Fait qu'il y a beau avoir théoriquement de la place en termes de produits, de diversité de produits, il n'y a pas de place en termes de place sur la tablette parce qu'ils ont trouvé une façon de nous freiner, ce qu'ils sont plus capables de faire dans la microbrasserie. Fait que moi, j'ai rencontré le magasin, je dis, ouais, ça fait 25 ans qu'il y a de la place tout le monde, c'est tablettes dans la bière. Les Sazas, ça fait 2 ans, puis il n'y a plus de place. C'est pourquoi? Ben, toutes les tablettes ont été achetées. Fait que le temps que le consommateur demande de la nouveauté ou de la variété, ben, ce temps-là, pendant ce temps-là, les majeurs ont comme la liberté de faire ce qu'ils veulent sur ces tablettes-là. Fait que ça freine tranquillement pas vite l'arrivée de d'autres microbrasseries dans ces catégories-là. Mais on pense qu'un bon produit va finir par trouver quand même une place parce que on regarde comment ce que les majeurs travaillent dans d'autres catégories. C'est beaucoup de la multiplication du même format qui font prennent la place. Fait que tu sais, t'offres pas beaucoup de variété de goût à ton consommateur, seulement de la variété de format. Puis inévitablement, ça va finir par les rattraper aussi parce que ça l'a fait aussi dans la bière. Mais effectivement, c'est un segment que ça a tardé à arriver, mais là, ça arrive. Puis il va y avoir de la place, je pense, pour les bonnes brasseries qui vont faire des bons produits, qui vont avoir une stabilité, vont être capables de vraiment de sortir, tirer leur épingle du jeu là-dedans. Fait que nous, ben, on va essayer de positionner rapidement, malgré qu'on n'est pas arrivé d'un premier, on est arrivé au printemps. Déjà là, c'est pas facile au niveau du listing des bannières. C'est dans différentes chaînes, là, c'est comme ah non, regarde, c'est pas. Des fois, c'est pas les mêmes. Souvent, c'est pas les mêmes responsables, la catégorie de bière, c'est différentes choses. Fait que tu sais, nous autres, dans notre réflexion, on disait, bon, OK, dans quel autre segment qu'on peut les travailler? Ben, les premiers segments que je regarde, c'est où sont pas les majeurs? Parce qu'eux autres, ils n'achèteront pas les tablettes. Fait que si c'est tous des petits joueurs, on sait qu'ils. Il n'y a personne qui va acheter des tablettes comme les majeurs font dans leur stratégie de commercialisation de tout faire. Fait que là, on garde un peu ça de dire, OK, ben on sera pas. On va être vraiment dans des secteurs où il n'y a pas de grands joueurs. Comme ça, on est tous des petits joueurs. Fait que comme ça, on peut dire on a un peu plus les coups des franges pour opérer sur les tablettes. Fait que c'est un peu cette vision-là qu'on a de regarder tranquillement pas vite ce qui s'en vient pour le développement des nouveaux produits. Mais toujours en pensant qu'il faut effectivement rajouter des outils dans notre coffre parce que juste la bière, je pense que ça va devenir très difficile. Là. Puis, il n'y a pas beaucoup de brasseries qui peuvent avoir un flagship comme un Guinness là, qui va se vendre partout dans le monde. Tu fais juste la Guinness. Là. Fait que c'est un peu difficile, mais en même temps, il faut. Puis ça nous force aussi à être meilleur. C'est le fait qu'on a une stagnation de marché. Ben, ça fait que tu peux plus juste dire ben, « moi, je fais n'importe quoi ». Puis c'est un peu la crainte qu'on avait, puis c'est pour ça que l'association de microbrasserie, on a comme mis un comité pour développer sur un guide un peu d'encadrement pour les bières sans alcool. Si on voulait vraiment être capable de dire aux gens « vous voulez y aller, pas de problème, allez-y ». Mais faites attention. Il y a des pièges en cours de route. Fait que faites pas n'importe quoi, parce que vous avez une responsabilité en tant que brasserie de faire vivre une expérience au consommateur qui va être attirante. Parce que pensez que souvent, le consommateur est attiré par de la nouveauté. C'est 50% de ses achats, c'est de la nouveauté. S'il est futé, c'est l'ensemble de la microbrasserie qui est cas. Et non pas juste le produit qui a été sélectionné, parce qu'on sait que c'est un consommateur qui est non fidèle à une marque, mais fidèle à un segment. Fait que c'est là, fait que tu sais, dans le travail qui a été fait avec différentes microbrasseries, on ne donne pas la destination. On donne plus l'orientation sur le chemin.
C'est quoi c'est la conférence que vous avez
parlé? Oui, c'est la conférence tantôt qu'on donne. Puis les gens du Bokeh, avec Estelle, qui a travaillé beaucoup côté laboratoire. On a eu d'autres micros aussi, on avait nous. Le Ciboire, après ça, on avait le Brasseur du Monde. T'sais, on a quand même des gens qui ont manifesté un intérêt de dire, « Hey, nous, Saint-Pancras aussi, hey, nous, on a un intérêt de travailler là-dedans, dans ce projet-là. » Puis nous, la Voie Maltée, puis le Bokeh, étant peut-être les deux brasseries les plus avancées, je dirais, dans le domaine sans alcool, on est un peu plus porteurs du projet. Puis c'est correct aussi, parce que. Mais en même temps, on ne voulait pas tout donner nos secrets, puis tous nos trucs, mais on veut au moins dire faites attention à telle affaire. Mais faites vos devoirs.
C'est que j'avais dit avec Michael Jean, on a fait un podcast là-dessus, sur la vie sans alcool, tout le kit. On avait discuté de ça, des défis qu'il y avait à avoir, tu sais. Puis je me rappelle qu'il ne fallait pas donner tout ce secret là-bas. Puis moi, je pensais aussi qu'il fallait quelque chose comme ça. Mm. Toi, sur la conférence, tu ne vas pas nous parler toute la conférence, bien sûr, mais de quoi tu vas parler? C'est quoi le guide que tu dois te penser quand tu te lances là-dedans?
Oui, exactement. Tu sais, on parle des enjeux, on parle de la réglementation, on parle aussi peut-être des pièges qu'il y a aussi en cours de route. Mais c'est puis on le dit d'emblée, on veut pas que le monde y aille pas. C'est, regarde, on est pour la compétition.
C'est un business.
Tu sais, puis ensuite de ça, posez des questions, informez-vous. Tu sais, dépendamment des affinités avec différentes brasseries, il y en a qui sont rendus plus loin, il y en a qui vont être prêts à partager certaines connaissances, passer des amis, tout ça. Tu sais, c'est très collaboratif dans le milieu, mais en même temps, tu sais, on ne veut pas donner ça trop facile, sachant que nous, exemple, on a passé 2 ans à travailler là-dessus. Je n'irais pas dire exactement tout comment faire, mais je peux.
En même temps, vous êtes différents. Vous autres, vous avez quand même une capacité bien différente que vous autres, parce que moi, je parle avec beaucoup de détaillants. Je disais, le problème avec la bière sans alcool, il y a beaucoup de marde. Il y a beaucoup d'affaires qui n'est pas bonne. Et même malgré qu'il faut avoir l'équipement, il faut avoir plein d'affaires que vous avez quand même accès.
Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça, tantôt, en revenant, tu peux avoir un pasteurisateur, mais si tu as un haut taux d'oxygène dans ta canette, ça fera pas. Tu sais, un pasteurisateur, à la base, c'est pas une baguette magique. Ça efface pas tous les défauts de fabrication. Tu sais, puis même que s'il n'y a pas les bons équipements en amont, ça va absolument rien faire. Ça va juste donner un produit qui ne goûtera pas bon, mais qui ne sera pas dangereux, dans le sens qu'il n'y aura pas de bactéries, il n'y aura pas de possibilité de refermentation. Tu sais, ça va enlever certaines choses, mais ça ne fera pas de ça un produit exceptionnel parce qu'il y a passé un pasteurisateur. Ce n'est pas une machine à remonter le temps. Là. C'est vraiment... Fait que, tu sais, nous, on pouvait arriver avec le tunnel parce qu'avec le type d'encaneuse qu'on a, on a très, très, très peu de particules d'oxygène dedans. Mais si on a de l'oxygène dans un produit, bien, ça accélère le vieillissement. Fait que c'est pour ça que moi, des fois, j'ai des brasseries qui me communiquent, hey, on peut-tu aller pasteuriser chez vous? Ben, en fait, si vous avez en bas de 25 ppm d'oxygène par canette, pas de trouble. Si vous êtes en haut de ça, ça donne absolument rien. Parce que je ne veux pas être responsable de la qualité de ton produit, parce que c'est assuré que ton produit va se détériorer.
Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de la pensée magique un peu beaucoup de monde? Parce que moi, je l'appelle, tu sais, il y a quand Bucky a sorti ses bières sans alcool. 2-3 ans après, tout le monde a commencé la bière sans alcool, puis il y a eu beaucoup de mauvaises affaires. Mm. Puis vous êtes une bonne bière, vous êtes sorti, vous avez goûté à vos bières, tout ça. Mais tu penses que les brasseurs, ils ont un peu une pensée magique de quoi je vais le faire, m'acheter un peu de yeast, en arriver ça, m'arranger ça?
Bien, je pense que peut-être que dans la rapidité de vouloir sortir quelque chose pour ne pas perdre ton tour dans le fil, peut-être qu'il y en a qui ont fait, je ne veux pas présumer qu'ils ont fait les coins ronds, ils ont pris des raccourcis, mais assurément, je crois que l'entièreté, puis tu sais, Castel va en parler durant la conférence de chez Bucky avec Nissanka, tu sais, l'idée de notre guide, là, c'est d'éviter une crise d'aldistériose qu'il y a eu dans le fromage il y a quelques années.
Okay.
Ou ce que pour quelques, on va dire, fromageries qui étaient moins, il y avait moins de rigueur, c'est l'ensemble de l'industrie qui a été pénalisé de tout ça. Fait que, c'est un peu ça. Notre red flag là-dedans, c'est de dire, hey, on est mieux de se discipliner ou se mettre des règles nous-mêmes avant de s'en faire imposer. Parce que ceux qu'on va se faire imposer, là, ils ne feront peut-être pas l'affaire. Fait que, on est mieux de dire, regarde, on est conscient qu'il y a un risque, on est conscient qu'il y a des enjeux, on veut prendre les mesures nécessaires, on démontre une bonne foi en faisant des choses, puis en voulant améliorer les processus, puis en donnant de l'information aux gens pour dire, hey, regardez, on va être en appui, mais on ne vous dira pas tout, mais au moins, on va être capable de vous donner. Mais en même temps, ça, c'est un peu un guide de dire, OK, si c'est faut que je pense à tel et tel enjeu quand je vais être dans le sans-alcool, bien, peut-être qu'ils vont y réfléchir 2 fois avant d'y aller. Puis ceux qui vont y aller, bien, ils vont être prêts à faire les efforts nécessaires pour avoir un résultat. Parce qu'au bout de ça, c'est de l'éducation qu'on fait auprès des consommateurs. Puis chaque brasserie a une responsabilité d'offrir le meilleur produit possible pour s'assurer que le consommateur reste dans la catégorie microbrasserie, puis qu'il ait le goût d'en racheter d'autres, puis de stimuler ses papilles, puis son engouement envers les produits. Fait que, tu sais, si les gens voient ça juste comme « Ah, je le sais, ça fait pas, c'est pas grave », tu sais, il faut que tu sois plus fier que ça, de ta marque. Il faut que tu sois plus fier de ce que tu fais. Puis, tu sais, c'est beaucoup ça qu'on veut dans ce guide-là. Puis je sais qu'aussi, il va se préparer possiblement éventuellement un guide, c'est smoothie.
Mais c'est que je pensais à ça, est-ce que c'est le monde, comme tu disais au début, le monde va se lancer dans RTD, tu sais, le prévoir. Est-ce que tu penses qu'il y a du monde va commencer à penser un petit peu plus aussi au thé alcoolisé qui s'en vient,
ouais.
Des affaires comme ça. Je pensais même pas au kombucha, on devrait déjà commencer à penser au kombucha ici. Mm-hmm. C'est le monde se lance là-dedans, tu sais.
Tu sais, puis oui, puis gars, nous, on a fait cette année un smoothie parce qu'on a un pasteurisateur. Sinon, il faut qu'il y ait une chaîne de froid à respecter. Puis tu sais, la chaîne de froid, toi, tu as une responsabilité. Ah, chez nous, respecté, ouais, mais après, tu sais, ton distributeur, ton détaillant, est-ce qu'il la respecte, qu'il la respecte pas, tu sais, mais à partir du moment où il y en a un dans l'équation qu'il fait pas, ça reste que les gens ont quand même ton produit dans les mains, même si c'est pas toi qui n'as pas respecté la chaîne, c'est toi qui va être jugé, c'est ton nom, c'est, fait que tu sais, il y a beaucoup cette imputabilité-là que je pense que les gens doivent se dire, hey, oui, on peut le faire, ah, il est excellent quand on le fait chez nous dans le brewpub, parfait, mais quand il va sortir, là, c'est quoi qu'on fait? T'sais, on est en train de créer des situations où ce que les gens vont se désintéresser, ils vont tout mettre au banc des accusés en disant bah, non, ils font n'importe quoi. Puis dans le danger, je pense, c'est dans l'optique de toujours vouloir être innovant, puis nouveau, puis premier à avoir fait. C'est qu'à un moment donné, ma crainte, c'est qu'il y en a un qui va faire de quoi qui va dépasser la limite.
Okay.
Puis là, la chaîne va débarquer pour tout le monde. Fait que tu sais, les guides ou les contrôles de qualité que la MBQ essaie de mettre en place, ben c'est un peu pour ça. C'est-à-dire, regardez, allez-y, soyez innovants, mais soyez responsables.
Mais tu penses qu'avec les coûts d'inflation, tout ça, ça va être plus difficile, mais là, les innovants, tu sais, parce que les coûts sont plus comme avant, tu sais, quand on parle d'il y a 2-3 ans, quand on faisait de la bière, c'était pas le même coût qu'il y a maintenant, tu sais.
Puis c'est
je, vois je vois des gens même dans l'achat de la bière, achat de la bière, et moins en moins d'innovation à cause de ça. Tu penses qu'il va y avoir un problème d'innovation à cause des coûts de bière, tu sais, des coûts des matériaux, tout ça?
Ben, c'est si. Ben, l'innovation, moi, à ce moment-là, je vais la voir plus comme une opportunité de faire de la substitution d'items ou de produits. Okay. Puis là, d'exposer vers des choses ou vers des fabricants qui ont peut-être moins de standards, moins. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le brasseur, mais ça va être son sous-traitant pour sauver de l'argent qui va être beaucoup plus artisanal, avec beaucoup moins de rigueur. Avec, tu sais, le danger peut être ailleurs, on va dire, dans la chaîne de production que juste le brasseur. Il peut vraiment être dans les fabricants, dans les fournisseurs. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses là, qu'il faut quand même réfléchir puis penser avant de se lancer là-dedans. Mais effectivement, que les coûts restent quand même une partie prenante du frein de l'innovation.
R&D, ça coûte cher, tu sais.
Oui.
Mais est-ce que vous autres, vous pensez que vous allez grandir en faisant des achats, vous autres? Parce que, tu sais, on voit, moi, je suis une amie d'Ontario, qui a des grosses brasseries, comme une grosseur comme toi, disons Muscaca, ça va pas dans votre brasserie, mm-hmm. Vous autres. Ils sont en train d'acheter des plutôt que ça sortir une bière sans alcool, on va acheter une compagnie qui fait de la sans alcool.
Ouais.
Et on va faire ce que vous pensez, vous autres, si quelque chose de mieux pour vous autres, quelqu'un qui a une façon de développement, et vous allez les aider avec la production, la vente.
Ouais. On y avait déjà pensé dans le sans alcool quand on essayait d'en faire, puis maintenant, on dit, ben là, si on n'est pas capable d'en faire, on va acheter une brasserie qui en fait ou qu'il y en a qui ont déjà une expertise là-dedans. Fait que, oui, ça nous a déjà effleuré l'esprit, mais en même temps, on a réussi à le faire. Fait qu'on s'est dit, bon, on va continuer dans notre propre développement. Mais effectivement, on sait que dans les prochains mois, prochaines années, il va y avoir des opportunités de brasserie qui vont tomber soit en difficulté.
Ouais, 10-15%
que ça en fait, tu sais, à ce moment-là, est-ce qu'on fait des acquisitions? Est-ce qu'on fait, OK, il est beau, certains brands ou certaines lignes de produits sont complémentaires à ce qu'on fait? Ou carrément, racheter une brasserie, javeliser ça au complet, puis repartir un nouveau plan de production avec du sans gluten, du bio, etc. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on va se questionner. Mais c'est sûr que nous, le message dans le marché est clair qu'on est ouvert à des opportunités, on est ouvert à faire des acquisitions, mais il faut que ça reste des acquisitions aussi stratégiques puis des opportunités stratégiques pour nous.
Moi, je souviens vraiment que tu veux l'analyser, tout ça. C'est... Moi, je voyais votre vous avez comme tellement de place, Jonquin, dans Saguenay, tout ce coin-là. Il y a tellement de développement à faire encore dans ce coin-là. C'est comme ça. C'est étrange de m'entendre que tu me dises, ah, nous, ça nous tente d'aller en Asie, tout
oui,
ça.
Oui, mais c'est parce qu'on ne va pas avec de la bière. On va avec un autre produit.
Okay, okay, okay.
On a développé un produit, puis qu'on est en train de finaliser. Puis, bon, on a fait déjà les premières canettes, tout ça. On a fait un produit d'eau d'érable.
Ah, OK, OK.
Fait que c'est vraiment pas un produit de bière, c'est un produit qu'on peut faire en parallèle à la bière, mais qu'on est en train, puis on travaille avec un exportateur, mais il y a un marché de l'Asie. T'sais, l'Asie, là-bas, c'est un produit d'érable. Tout ce qui est eau naturelle, eau de coco, eau, c'est des eaux, c'est une un segment de marché qui est en explosion partout.
Mais le coconut, je sais que c'est grossier de plus en plus.
Ouais. Puis là-bas en Asie, ben, l'eau d'érable est prisée par le domaine asiatique. T'sais, tout ce qui est produit d'érable, puis là-bas, il y a de la... Fait que c'est un produit que nous, on fabrique à notre usine. L'exportateur arrive avec son conteneur, on met ça dans le conteneur, ça part. Fait que c'est vraiment intéressant pour nous autres de développer ce type de produit.
C'est quoi le nom?
C'est Érable Tonic.
Okay.
Puis Maple Tonic pour l'anglais. On est avec d'autres partenaires dans le centre du Québec. Fait que c'est une compagnie, parce qu'on n'est pas seul là-dedans. On est comme deux partenaires. Il y a les gens qui ont développé. Puis c'est des gens issus de la bière qui ont développé ce produit-là. Puis justement, nous, on les a aidés là-dedans en termes de fabrication. Par justement, eux, on regarde un peu le portrait des microbrasseries ou des brasseries. On dit qui est capable de faire notre produit avec une qualité. C'est là qu'ils cognent à notre porte et disent, vous avez une encaneuse, vous avez un tunnel pasteurisateur, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ça, vous êtes à peu près les seuls. Puis c'est des gens qu'on connaissait déjà dans le passé, avec qui on avait des affinités. Fait que là, on s'est dit, ben oui, on peut développer le produit, puis on le fait ensemble. Puis on ne veut pas seulement commercialiser ici au Québec, mais principalement, 99% va être pour l'Asie ou les marchés extérieurs. Puis c'est parfait parce que nous, pour nous, on prend de l'eau d'érable, puis on le transforme, puis on envoie ça. Fait que, tu sais, ça devient un produit d'une plus-value, mais dans un segment différent que de la bière. Puis, ça peut nous ouvrir des portes, parce que peut-être l'exportateur dit, ben, moi, by the way, je vais prendre de la bière aussi, parce que j'ai une demande pour un marché.
Attendez une minute. Avant que le bas qu'on fasse l'entrevue, qu'est-ce que vous voulez mieux que le monde sache après qu'il sorte de la conférence? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il pense?
Ben,
la question qu'il faut qu'il se pose le plus.
Ben, moi, la question qu'on veut qu'il se pose le plus, c'est pas de dire, hey, moi, j'irai pas dans ce sens-là. C'est oui, on veut y aller, mais je suis content de savoir que tous ces pièges-là, tout au long du processus, que ce ne sera pas. C'est pas une autoroute. Là. C'est, des fois, je le dis aux gens, c'est pas une autoroute quatre voies divisées.
Mais avec ce que vous avez fait, vous autres, c'est pas une autoroute. C'est ça,
non, ça. Mais c'est un chemin. Là. C'est une route de campagne. Il y a des trous, il y a des détours, il y a de la mauvaise signalisation, des bouts c'est en asphalte, des bouts c'est en gravelle, mais tu arrives au bout, mais moins vite. T'sais, c'est de dire, ben, je suis content parce qu'il y en a qui ont fait des erreurs avant nous autres, puis nous partagent un peu leurs erreurs, ou puis c'est quoi faire pour ne pas tomber dans ce piège-là. Fait que, moi, je trouve que c'est plaisant pour eux d'avoir cette information-là avant d'arriver puis de se lancer puis de dire, ouais. OK, je pensais pas ça, puis il est trop tard. Puis sachant que ça peut mettre une précarité financière à l'entreprise s'ils sont plus petites, bien, d'avoir les bonnes informations au début, ça te permet de prendre les bonnes décisions aussi pour la suite des choses. Fait que ça, on espère que ça va être ça, puis que les gens vont le voir plus comme un guide ou un pense-bête que de dire, hey, ils sont en train de vouloir protéger leur marché. Moi, quand il y en a d'autres, ça ne me dérange pas, parce que tout le fait qu'il y en a, on va avoir plus d'espace.
Mais toi, tu veux que ça soit bien fait,
c'est ça? Oui, c'est ça. C'est juste ça qu'on souhaite aussi. C'est que les gens prennent la rigueur de bien faire les choses.
Bien, écoute, Carl, merci beaucoup
pour ton plaisir.
J'ai bien hâte qu'on puisse parler de la structure de ta business, parce que je trouve qu'on a fait deux, trois entrevues ces deux jours. Puis le fait de la vision d'affaires est intéressant, puis c'est de scaler vers les microbrasseries. Mm-hmm. Je pense que quelque chose que vous pouvez amener intéressant à l'arrivée de ça.
Exact. Ça fait plaisir.
Merci.
Merci.